Nous sommes toujours dans ce cours Introduction à Windows Intune, et plus particulièrement dans le module 3 consacré aux démonstrations vidéo. Donc, je suis Pascal Saulière, architecte infrastructure chez Microsoft DX France, et vous voyez ici mon Twitter, le Twitter de MS Virt Academy, si vous voulez nous contacter par Twitter. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer une démonstration du premier abonnement, c'est-à-dire comment on crée un abonnement de test de Windows Intune, et puis comment on le configure. Donc je partirai ensuite sur des abonnements déjà préconfigurés, de façon à balayer l'ensemble des possibilités de l'interface d'administration, des comptes, des objets qu'on administre, des appareils qu'on administre, etc. Donc sans plus attendre, on va mettre de côté PowerPoint pour vous montrer le site auquel on accède avec l'URL windowsintune.com, sans espace, sans tiret, sans rien, et qui nous permet ici, en cliquant sur « Essayer », d'aller créer un abonnement de test Windows Intune. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande lorsqu'on veut aller créer un abonnement de test? Ici, s'inscrire à une évaluation gratuite de Windows Intune. Oui, au passage, avant d'aller créer l'abonnement de test, vous voyez que vous avez à votre disposition un guide d'évaluation, des informations sur la configuration requise et un guide détaillé de prise en main de Windows Intune qui est plutôt accessible et plutôt intéressant. Donc on va cliquer sans plus attendre sur « S'inscrire à une évaluation gratuite de Windows Intune ». Et là, voici les informations qu'on nous demande. On nous demande des informations plutôt détaillées sur notre identité, notre entreprise, nos coordonnées, etc. Et en bas à gauche, le plus intéressant qui est le nom de l'abonnement qu'on veut créer. Ici. Donc en fait, ce nom de domaine, ça va être le plus intéressant, puisqu'il va nous permettre de nommer notre abonnement. Donc le nom qu'on va mettre ici, par exemple, si je mets un nom démo MVA, on voit que le nom du domaine en question va être demomva.onmicrosoft.com. Et ça va être effectivement le nom de domaine créé pour notre abonnement, et qui va être à droite du signe at pour les identifiants des utilisateurs. En fait, rien n'empêchera par la suite de rattacher notre abonnement Intune à un domaine qu'on possède, qu'on sait configurer et qu'on pourra joindre, qu'on pourra relier à notre abonnement Intune. La chose à savoir également, c'est que ce nom de domaine correspondra à un annuaire Windows Azure Active Directory auquel on sera relié. Donc en fait, il n'y a pas un annuaire spécifique pour Windows Intune, mais ce sera effectivement un annuaire de type Azure Active Directory. Donc toutes les informations qu'on voit ici, plus ou moins personnelles, sont nécessaires évidemment, puisque par la suite il y aura facturation et donc nécessité d'avoir ces informations. Donc deuxième point, si vous avez déjà un abonnement, donc soit un abonnement de type Microsoft Online, c'est-à-dire soit un abonnement Office 365, soit un abonnement Azure ou autre, vous pouvez utiliser ce même abonnement et rattacher votre abonnement au nouvel abonnement Windows Intune. Donc cela se fait en fait en cliquant ici sur se connecter, en se connectant, en s'authentifiant avec un compte de notre abonnement existant, de façon à attacher à cet abonnement existant ce nouveau compte de test Windows Intune. Donc là vous voyez que pour un abonnement de test on a droit à 25 utilisateurs et si je ne m'abuse c'est une évaluation de 30 jours. Donc, je ne vais pas suivre la procédure jusqu'au bout, mais je vais aller sur le premier portail d'administration que l'on rencontre quand on va administrer Intune, que j'appelle ici Windows Intune Account, qui est en fait le portail d'administration des comptes d'utilisateurs de Windows Intune. C'est à ce portail-là qu'on aura affaire dès le début, puisque la première chose à faire dans Windows Intune, ça va être de configurer ou de créer des utilisateurs qui vont avoir la possibilité de gérer leurs différents appareils avec Windows Intune. Donc je m'authentifie ici avec mon administrateur, vous voyez qu'il s'appelle, je l'ai appelé admin lors du processus de création, at mon nom d'abonnement qui s'appelle frite1.onmicrosoft.com, son mot de passe, qui comme d'habitude doit être complexe, et on se connecte. Donc dans ce premier portail, donc, qui a été traduit avec plus ou moins de bonheur, un portail du compte Windows Intune, qui est la traduction un petit peu approximative de Windows Intune Account Portal, donc le portail de gestion des comptes d'utilisateur sous-entendu. On va pouvoir donc gérer nos utilisateurs, des groupes de sécurité, des domaines dont je parlais précédemment, et puis gérer l'aspect abonnement, licence, etc. Concernant Windows Intune. Donc on vous indique dès la page d'accueil que vous pouvez créer des utilisateurs avec le pâté bleu ici, et puis le carré violet ici vous indique que vous avez d'autres méthodes d'ajouter des utilisateurs, et c'est là que ça devient intéressant, puisque pour au lieu d'aller créer des utilisateurs, si vous en avez un nombre très important, vous pouvez très bien mettre en place une synchronisation avec votre Active Directory interne, votre Windows Server Active Directory, vers Windows Intune, de façon à trouver les mêmes utilisateurs des deux côtés, et de façon surtout à ce que les utilisateurs s'authentifient avec leur compte, le compte qu'ils connaissent, à savoir leur mail et leur mot de passe, basé sur leur VPN Active Directory. Donc dans ce portail, qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver une vue d'ensemble qui m'indique des informations sur la configuration du service, à savoir, est-ce que je veux faire du SSO, c'est-à-dire de l'authentification unique avec une fédération, de l'Active Directory, une synchronisation, etc. Comment va se passer notre synchronisation Active Directory ? Et puis, quel domaine je vais rattacher à mon abonnement Windows Intune. Donc les liens ici vous permettent d'en savoir plus dans l'aide. Plus bas, la gestion des utilisateurs. Donc ici, dans mon compte déjà configuré qui s'appelle demo-r2, comme vous le voyez ici, j'ai effectivement ajouté à mon compte Windows Intune un domaine qui s'appelle demo-r2.fr. On voit que là, j'ai rajouté des utilisateurs dont le nom d'utilisateur, dont l'identifiant, est un mail qui a une forme @demo-r2.fr. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que un utilisateur qui va s'authentifier à Windows Intune avec un email se terminant par @demo-r2.fr va être reconnu comme étant un de mes utilisateurs dans mon compte, qui s'appelle en l'occurrence frite1.microsoft.com. Le lien a été fait déjà au niveau de mon compte Windows Intune. Alors comment a été fait ce lien ? Il a été fait ici dans la partie domaine. Et on voit effectivement que, en plus de mon domaine frite1.microsoft.com, j'ai ajouté un domaine qui s'appelle demo-r2.fr. Donc ce domaine, pour pouvoir être ajouté ici, il doit exister. Il doit être reconnu sur Internet, c'est-à-dire qu'il doit avoir un DNS public qui le référence. Et il doit avoir, en plus, un CNAME, un nom public, qui a dû être configuré. Donc si je vais voir, je vais vous montrer directement de quoi il s'agit, ce fameux CNAME. J'ai un outil qui s'appelle DIG, hein, qui est l'outil standard maintenant de connexion à d'envoi de requête DNS, pardon. Et si je fais DIG Enterprise Enrollment.demo-r2.fr, l'outil DIG va se connecter à mon DNS public, va faire une requête sur le nom Enterprise Enrollment.demo-r2.fr. Et on voit que l'administrateur du domaine demo-r2.fr a bien créé un CNAME pour le nom Enterprise Enrollment qui pointe sur enterpriseenrollment.manage.microsoft.com. Donc ça, c'est l'opération que l'administrateur du domaine doit faire pour que le lien avec le domaine qu'on ajoute dans Windows Intune fonctionne. C'est-à-dire que chaque fois qu'un utilisateur va vouloir authentifier un nouvel appareil et va s'authentifier avec son nom @demo-r2.fr, Windows Intune va faire une requête DNS avec comme nom enterpriseenrollment.demo-r2.fr et il va trouver le serveur qui correspond au serveur de Windows Intune. Donc c'est comme ça que le client va pouvoir, avec cette requête, se connecter au bon serveur qui est un serveur de Windows Intune. Entre parenthèses, si on n'utilisait pas Windows Intune comme MDM mais un autre produit, on ferait la même chose, mais en faisant pointer le Enterprise Enrollment de notre domaine, vers un serveur d'un autre fournisseur. Donc ce serait exactement la même chose. Sachant que c'est le client qui fait la requête. Donc notre domaine demo-r2.fr, il a bien été vérifié et peut être utilisé avec Windows Intune. Alors la phase de vérification est assez intéressante. Quand on crée un nouveau domaine, je vais essayer de le faire en direct. Donc je fais ajouter un domaine. Imaginons que j'ai un autre domaine DNS qui s'appelle demo-mva1.fr. Je fais suivant. Et là, on me dit, pour vérifier que je suis bien le propriétaire du domaine demo-mva1.fr, on me demande de rajouter dans la zone de demo-mva1.fr un enregistrement TXT dont les caractéristiques sont ici. Ici. Si je ne fais pas ça, c'est que je ne suis pas le propriétaire du domaine et que donc je ne peux pas le gérer. Donc c'est aussi simple que ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on doit en plus créer le CNAME sur Enterprise Enrollment. Le nom de domaine. Donc, je reviens à ma liste d'utilisateurs après avoir vu comment ça se passait au niveau du domaine DNS. Et on voit que, donc une fois qu'on a bien lié le domaine demo-r2.fr, notre domaine public, on peut rajouter des utilisateurs qui sont dans ce domaine, dont le mail est basé sur ce domaine DNS. En l'occurrence, ici, on voit qu'il y a deux types d'utilisateurs. Il y a des utilisateurs qui ont une icône telle que celle-ci qui dit dont le petit type là est utilisateur. Voilà. Et il y en a d'autres qui ont ce petit symbole qui dit synchroniser avec Active Directory. Donc il se trouve que j'ai un Active Directory quelque part dont le domaine est demo-r2.fr, ou en tout cas dans lequel les utilisateurs ont comme UPN, qui a une forme d'adresse email, hein, leur alias at demo-r2.fr, et que j'ai mis en place la synchronisation avec l'outil de synchronisation d'annuaire, le dirsync, entre l'Active Directory et le Windows Azure Active Directory, mais qui est en fait celui que j'utilise dans Intune. Donc ces utilisateurs viennent de cette synchronisation-là. Donc je ne vais pas vous montrer tout de suite comment se passe la synchronisation, l'outil de synchronisation, mais ça se passe avec l'outil de synchronisation d'annuaire, et tout est documenté dans l'interface de Windows Intune. Donc j'ai des utilisateurs, c'est bien. Par exemple, si je prends Jean-Kévin, qui est toujours mon utilisateur de test préféré ici. Ce qu'il faut faire, et on voit ici, c'est cocher la case Windows Intune, de façon en fait à le mettre dans le groupe qui s'appelle Windows Intune. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, voilà, les utilisateurs qui viennent par la synchro d'Active Directory, je les active pour Windows Intune, c'est-à-dire que je leur permets, je leur donne le droit d'accéder à Windows Intune pour la gestion de leurs périphériques. Donc il suffit de les mettre dans ce groupe-là, de cocher cette case-là pour activer ces utilisateurs. C'est une erreur qu'on peut faire assez facilement au départ quand on commence à gérer Windows Intune, à mettre en place la synchronisation d'annuaire. On a bien nos utilisateurs qui arrivent dans Windows Intune, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser Intune. Donc il faut penser à aller dans les utilisateurs et les activer pour qu'ils aient le droit de faire Windows Intune. Donc ça se passe ici. Authentification unique. En fait, comme je ne suis pas dans le cas, j'ai plus d'utilisateurs qui ne sont pas activés, donc je ne vois pas le bouton qui correspond à cette action-là. On voit également ici que j'ai du SSO, que j'ai la synchronisation Active Directory qui est activée, etc. Domaine, on a vu. Groupe de sécurité, donc on a le droit de créer des groupes de sécurité pour certaines actions. Par exemple, quand on va dans l'interface d'administration de Windows Intune, déployer des applications, on va pouvoir dire je déploie telle application et je la mets à disposition pour tel groupe d'utilisateurs et pas d'autres. D'accord ? Donc je vais pouvoir faire un filtrage par groupe d'utilisateurs, un peu comme on fait dans System Center Configuration Manager. Donc là en l'occurrence, les groupes proviennent de la synchro avec Active Directory. Les domaines, on a vu. Ensuite, il y a tout ce qui est gestion des abonnements. Je ne vais pas m'attarder dessus puisque c'est pas l'objet de cette démonstration. Donc voilà, on a vu le principal. Grâce à cette console de gestion des comptes dans Windows Intune, on a la possibilité de créer nos comptes, de mettre en place la synchro d'annuaire, de mettre en place un domaine personnalisé, un domaine propre à l'entreprise, de façon à ce qu'au final, ben, on a des utilisateurs, on a des groupes et on peut partir sur la gestion des périphériques pour ces utilisateurs. Donc maintenant, on va s'intéresser au deuxième portail, qui est le portail d'administration quotidienne de Windows Intune. Donc l'URL de ce portail, c'est admin.manage.microsoft.com. J'ai oublié de dire que le précédent, le gestion des comptes, le portail de gestion des comptes, c'est account.manage.microsoft.com. Le portail d'admin, c'est admin.manage.microsoft.com. Le tout en HTTPS, évidemment. Donc pareil, je vais m'authentifier avec mon compte d'admin. Donc c'est un portail qui s'exécute en Silverlight. Cette barre de progression au début n'apparaît qu'une fois. Une fois que c'est chargé, bon, c'est mis en cache dans le navigateur. Donc c'est du Silverlight, il faut y penser, hein, pour savoir à partir de quel appareil on va pouvoir accéder à ce portail d'administration. Donc première page qu'on voit dans ce portail d'administration, c'est une vue d'ensemble du système où on a déjà des informations de type tableau de bord. On voit ici que j'ai des mises à jour de sécurité à approuver. Intéressant, ça veut dire que je gère des PC sur lesquels je gère les mises à jour, un peu comme WSUS, donc c'est une fonctionnalité intéressante. Deuxième chose, on voit que j'ai eu des soucis avec des programmes malveillants sur certaines machines que je gère. En l'occurrence, j'ai eu programmes malveillants récemment résolus. Donc la bonne mauvaise nouvelle, c'est que j'ai eu des soucis. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont été résolus en même temps, à la même heure, le 13 octobre à 14h50. Donc tout va bien. Et puis en dessous, j'ai un état du système encore. Donc résolution récente sur un programme malveillant, sur un ordinateur. Je peux cliquer dessus pour savoir de quel ordinateur il s'agit. Et on voit qu'il s'agit d'un ordinateur double Windows 7, puis qui s'appelle W7FR. Bon, c'est pas la raison, mais c'est effectivement un Windows 7. Et on va y revenir. Donc je reviens à ma vue d'ensemble du système. Vous voyez qu'on a une barre de navigation à gauche où il y a tous les sujets, tous les points d'entrée de l'administration de Windows Intune. Le deuxième point, c'est la gestion des groupes. Alors les groupes, c'est quoi? Les groupes, c'est simplement les listes d'ordinateurs et les listes d'utilisateurs. Donc tous les utilisateurs et tous les appareils, ordinateurs, portables, tablettes, téléphones, etc. Donc dans les utilisateurs, rien de bien méchant. Je retrouve les utilisateurs que j'avais précédemment dans mon portail d'administration des comptes. Éventuellement, je peux créer un groupe. Ici, sélectionner des utilisateurs, créer un groupe. Bon. Au niveau des appareils, c'est là que ça va devenir intéressant. Donc là, j'ai tous les appareils. Bon, il se trouve que dans mon compte de démonstration, j'ai peu d'appareils. J'ai ici un Windows RT 6.2. J'ai ici un Android 4.4, une tablette Android. Et le dernier, c'est un Windows 7 professionnel. Donc le fameux qui avait un petit programme malveillant qui a été résolu tout à l'heure. Donc on voit effectivement que sur ce Windows 7, j'ai ici un programme malveillant résolu et une mise à jour nécessitant une approbation. Alors nécessitant une approbation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme dans WSUS, les mises à jour de sécurité qui arrivent, il faut qu'on les approuve. Donc en tant qu'administrateur, je peux aller approuver ma mise à jour de sécurité et je vais dire que je l'approuve pour tous les appareils. Suivant. Installation requise, comme ça j'assure la sécurité de mon parc. Je reviens à tous mes appareils. Et l'avertissement sur la mise à jour devant être approuvée a disparu au profit d'un nouvel avertissement qui est « la mise à jour est en attente d'installation ». Donc le poste en question doit installer cette mise à jour qui lui a été assignée de façon obligatoire. Donc ensuite, une chose intéressante à voir dans cette liste à gauche, qui est la structure même de Windows Intune. Donc je vais zoomer à gauche. Et ça se passe ici. On a dit dans la vidéo tournée avec Stanislas sur la présentation du MDM et la présentation de Windows Intune, qu'il y avait deux sortes de choses qu'on gérait dans Windows Intune. On va gérer des appareils de type ordinateur, donc des PC, et on va gérer des appareils mobiles. La distinction ici est que les ordinateurs, ce sont des ordinateurs de type Windows 7, Windows Vista, sur lequel on va installer un client Win32 pour Windows Intune. Alors un client à l'ancienne mode, entre guillemets, un peu comme un client SCCM, mais en plus léger, puisqu'il s'agit de Windows Intune. Et c'est ce client qui va gérer les mises à jour, contenir un antivirus, ce genre de choses-là. Donc ce sont des fonctionnalités, les mises à jour et l'antivirus, qui sont spécifiques à ces appareils de type ordinateur. Donc Windows 7, Windows Vista. Il y avait Windows XP avant, mais c'est plus supporté, donc on reste avec Vista et Windows 7. On peut également installer ce client de type à l'ancienne, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, sur du Windows 8 ou du Windows 8.1 si on désire les gérer comme ça. C'est pas interdit du tout. Mais la cible principale, c'est Vista et Windows 7. La deuxième sorte d'appareils qu'on gère, ce sont donc les appareils mobiles. Alors les appareils mobiles, c'est quoi? C'est tout le reste. En gros, c'est les téléphones, Windows Phone 8, 8.1. Ce sont les tablettes et téléphones Android, les tablettes et téléphones iOS, iPad, iPhone, etc. Et ce sont également tous les PC ou portables ou tablettes exécutant un OS de type Windows 8, Windows 8.1, Windows RT. Plutôt Windows RT ou Windows 8.1 d'ailleurs, et qui contiennent tous, pour lesquels il existe un client de type MDM, donc on en a parlé dans la vidéo avec Stan, hein, c'est un client de type MDM qui répond à la norme OMADM. Et donc ces clients-là, on va les gérer non pas avec un client lourd qu'on va installer dessus, mais le client est déjà installé sur l'OS client, c'est-à-dire que le client OMADM est présent dans Windows Phone 8.1, dans Windows Phone 8, dans Windows RT 8, dans Windows 8.1 toute version, que ce soit les versions 8.86 comme les versions RT. Et puis on a également un client de gestion directe, donc par OMADM, pour les machines de type Android, donc les tablettes et téléphones Android. Et puis on a un client également natif pour iOS, donc les iPads et les iPhones. Donc c'est-à-dire que tous ces appareils-là, on va les retrouver dans cette partie-là, tous les appareils mobiles. Donc si on ne gère que des appareils mobiles à partir de Windows 8.1 ou Windows RT, etc., on va tous les retrouver là classiquement. Rien n'interdit de gérer Windows 8.1 comme un Windows 7 avec l'ancien client, mais c'est pas la façon naturelle de faire, puisqu'il s'agit d'installer là un client, alors qu'on a déjà un client de base sur Windows 8.1. Et on le verra dans une autre vidéo, comment on installe ou on configure ce client, comment on connecte ces clients à Windows Intune. Donc par exemple ici, tous les appareils mobiles. J'ai une Surface RT, un Android, une tablette Android, gérée par mon Windows Intune. Si je regarde tous les appareils, ici j'ai la liste également, et j'ai le type mobile, ordinateur. Et dans les ordinateurs, ce sera en fait les PC sur lesquels j'ai installé le client classique, le client lourd. Ce fameux client qu'on installe sur les Windows 7 en général, on le trouve dans l'interface, ici dans Administration, tout en bas, dans Téléchargement du logiciel client. Et ici, on peut télécharger donc ce fameux client pour les ordinateurs de type Windows X86, Windows Vista, Windows 7. Donc on voit qu'il s'agit d'un fichier zip dans lequel il y a un exécutable et on va l'installer sur le poste. Et c'est ce client-là qui gère les mises à jour, qui sait gérer les mises à jour, un peu à la mode WSUS, hein, et qui sait gérer également, et qui contient, pardon, un antivirus, sur lequel effectivement il y a une différence entre Windows 7, Windows Vista, et puis Windows 8, Windows 8.1. C'est que dans les nouveaux OS, l'antivirus est intégré, alors que dans Windows Vista, Windows 7, l'antivirus n'était pas intégré. Donc c'était intéressant de l'ajouter par Windows Intune. Donc je reviens à mes listes, mes groupes, et on a vu donc les ordinateurs, etc. Donc sachez également que les ordinateurs ici, ce sont les utilisateurs qui les ont enregistrés. Ce n'est pas l'administrateur qui rajoute des ordinateurs, mais c'est l'utilisateur qui enregistre son périphérique dans Windows Intune. Ensuite, on a la partie mise à jour. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est un peu comme un petit WSUS pour nos postes de type Windows Vista, Windows 7, qui ont le client. Et on gère les mises à jour. On les approuve, comme vous m'avez vu faire à l'instant. Ensuite, la gestion de l'antivirus. Pareil. Pas grand-chose à dire. On peut avoir des statistiques, des rapports. Ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant dans Windows Intune, c'est qu'on peut remonter des rapports de suivi. Et vous voyez ici, tiens, chose intéressante, que le fameux malware, le logiciel malveillant que j'avais sur mon PC Windows 7, c'est en fait un test que j'ai fait, hein, avec le pseudo-virus qui s'appelle Aycar, qui est en fait simplement un fichier de test pour tester les antivirus. Donc c'est un fichier qui n'a rien de malveillant, mais qui permet de tester tout le process en fait et d'être sûr que l'information remonte bien au système de supervision des logiciels malveillants. Ici les alertes, donc je retrouve mes alertes sur la mise à jour qui devait être approuvée et sur le logiciel malveillant que j'ai rencontré. Pareil, des rapports, etc. Ici la partie intéressante sur la gestion des logiciels. Et notamment, alors je vais pouvoir voir les logiciels détectés, c'est-à-dire l'inventaire logiciel des postes que je gère. Donc cet inventaire, attention, respecte la vie privée, c'est-à-dire que sur les appareils mobiles de type Windows Phone, iOS, Android, etc., on ne va remonter dans l'inventaire que ce qu'on a installé par Windows Intune. C'est-à-dire que tout ce que l'utilisateur a installé lui-même en dehors de Windows Intune, on ne l'inventorie pas, on ne le remonte pas. Donc par exemple, on n'a pas à savoir que l'utilisateur sur son téléphone personnel joue à Angry Birds ou utilise Facebook ou autre chose. On ne remonte que ce qu'on a installé nous-mêmes. Logiciel géré, donc c'est ici que se passe notre déploiement d'applications d'entreprise. C'est ici qu'on va envoyer dans Windows Intune les applications qu'on veut déployer sur les postes des utilisateurs. Donc plusieurs cas se présentent, hein. On a des cas, on a des applications pour lesquelles on a des packages. Par exemple, je dois en avoir ben, tous ceux qui ont une taille ici. Par exemple, Shapes, c'est une application pour Windows Phone dont j'avais le package XAP. Et donc j'ai envoyé dans Windows Intune le package de cette application. Et les utilisateurs qui ont un Windows Phone peuvent l'installer depuis leur portail d'entreprise. Pareil avec celle-ci, et celle-ci qui est un package cette fois APPX, donc un package d'applications pour Windows 8, 8.1, donc une application moderne qui pareil, sera disponible pour les utilisateurs via le portail d'entreprise. Comment on ajoute une application dans ce système? On va sur Ajouter un logiciel. Donc l'ajout d'un logiciel passe par une application .NET. Donc il faut télécharger, il faut se réauthentifier, l'exécuter, et c'est dans cette fenêtre d'application .NET qu'on va récupérer notre application qui est sur notre disque en local, quelque part, et qu'on va envoyer vers Windows Intune. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais je vais vous montrer simplement la liste des types d'applications qu'on peut envoyer par ce mécanisme. Donc le temps que ça se télécharge, c'est pas une connexion très rapide ici. Voilà, donc on doit se reconnecter. Donc avec notre compte admin on Microsoft Com. Et j'ai fait une faute de frappe. On.microsoft.com. Voilà. Donc un petit assistant. On me demande d'abord, j'ai zoomé un petit peu. Quel type. Donc comment ce logiciel doit être mis à la disposition des appareils? Est-ce que c'est un lien externe ou est-ce que c'est un programme d'installation du logiciel? Donc la question qu'on me pose, c'est en fait, c'est est-ce que j'ai les binaires ou non? Si j'ai les binaires, ça va être un programme d'installation de logiciel. Et on va me demander de quel type il est, etc. Si c'est un lien externe, c'est ce qu'on appelle du deep link. Donc je devrais aller dans un des stores publics, soit le store d'iOS, c'est-à-dire le App Store d'Apple, soit le Google Play Store pour Android, soit évidemment le Windows Phone Store ou le Windows Store, et puis trouver l'URL de l'application que je veux proposer à mes utilisateurs, et je la copier dans cette zone ici où il y a écrit spécifier l'URL. Donc c'est tout simple. Je vais choisir programme d'installation de logiciel. Et c'est ici dans cette liste qu'on propose, on me demande est-ce qu'il s'agit d'un installateur Windows classique, donc un exe ou un MSI, est-ce qu'il s'agit d'un package pour Android, APK, un package pour iOS, IPA, un package pour Windows Phone, ou un package d'application Windows moderne, donc de type APPX ou APPX Bundle. Ensuite, je dois aller parcourir sur mon disque, trouver le package, renseigner quelques informations supplémentaires avec le nom, la description de l'application, et envoyer le tout à Windows Intune. Donc c'est ce que j'ai fait sur les exemples qui sont ici. Donc si on regarde celles qui ont une taille ici, donc celles qui ont des packages, c'est des applications pour lesquelles j'avais le binaire en local. Par contre les autres, si je prends par exemple l'application Skype pour iPad, c'est une application que je n'ai pas, dont je n'ai pas les binaires, mais j'ai utilisé en fait un lien vers l'application Skype pour iPad dans le store d'Apple, l'App Store. Idem évidemment pour par exemple, le Remote Desktop, donc l'application bureau à distance, pour les machines Windows en mode moderne. Donc une fois qu'on a envoyé notre application dans Windows Intune, ce qu'il faut faire, c'est la publier. C'est-à-dire gérer le déploiement dans le vocabulaire Windows Intune. Même principe que dans SCCM, on crée un package et puis ensuite on déploie le package. Et déployer le package, ça consiste à dire, voilà, je mets le package à disposition pour tel groupe d'utilisateurs. En l'occurrence ici, tous les utilisateurs. Si je ne fais pas ça, personne ne va voir l'application. Donc il ne faut pas oublier également, c'est une des erreurs classiques qu'on fait, c'est qu'on crée un package et puis on oublie de dire à qui on la déploie et donc c'est déployé à personne et personne ne la voit. Donc c'est également encore une petite erreur qu'il faut savoir éviter quand on déploie des applications. Donc on peut voir quelques statistiques, 15 utilisateurs disposent de ce logiciel, etc. etc. Les licences, on ne va pas s'attarder dessus. Les stratégies, oui, les stratégies, donc ça c'est intéressant, puisque un MDM, un système de MDM, doit permettre à l'administrateur de gérer des stratégies de paramétrage et de sécurité des postes des utilisateurs. Donc comment ça se passe? Je vais ici dans toutes les stratégies. Je vais créer une nouvelle stratégie, ajouter. Voilà, on propose donc des stratégies déjà pré-cuites, hein, un petit peu dans le principe des émissions de cuisine. Hein. Par exemple, pour les postes Windows 7 qui ont l'agent Windows Intune, eh ben je peux prendre cette stratégie qui est le paramètre des paramètres standards pour l'agent qu'on appelle le Windows Intune Center. Je vais prendre plutôt une stratégie de sécurité des appareils mobiles, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Créer, déployer avec les paramètres recommandés, oui. Et donc on va voir un petit peu ce qu'il y a comme paramètres pour... Je vais l'affecter à tous les utilisateurs, c'est comme pour les applis. Donc comme paramètre pour la sécurité des appareils mobiles. Et je vais modifier pour consulter un petit peu les paramètres qui sont disponibles. Donc, j'ai ici de la sécurité de mot de passe, donc des paramètres classiques. Et vous voyez que pour chaque paramètre, j'ai ici l'indication des OS auxquels ça s'applique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un sous-ensemble très restreint. Un petit peu comme on avait avec les systèmes comme EAS, Exchange Active Sync. Très restreint de paramètres pour être commun et pour couvrir le plus d'appareils possible. Mais là, on a tous les paramètres qu'on peut avoir sur tous les appareils, sachant que quand on utilise un paramètre qui est spécifique à tel OS, bon, bah, il ne s'appliquera qu'à cet OS-là. Par exemple, autoriser des mots de passe simples, c'est un paramètre qu'on va pouvoir utiliser que sur Windows Phone à partir de 8 et sur iOS à partir de 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas sur Windows RT, pas sur Android, etc. Le chiffrement, exiger le chiffrement de l'appareil mobile, donc Windows Phone 8 et Android 4.0 et plus. Le cloud, par exemple, imaginons que j'ai des appareils iOS. Ce sont les seuls qui peuvent avoir des paramètres concernant iCloud et la sauvegarde dans iCloud. Eh bien, je peux ici régler le paramètre pour autoriser ou non la sauvegarde des informations dans iCloud. Par exemple, je peux interdire cette sauvegarde-là pour éviter les fuites de données dans un système qui serait étranger à l'entreprise. Compte de synchronisation, adresse de messagerie, le navigateur, autoriser les scripts, etc. Les applications, par exemple, on peut autoriser ou non l'accès au store public de Windows Phone 8.1 ou d'iOS, etc., etc. Donc je vous laisserai regarder lors de votre évaluation de Windows Intune. Annuler. Ensuite, on a une partie rapport assez complète. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais assez complète sur les mises à jour, les logiciels détectés, donc l'inventaire, etc. Et puis l'administration. Donc dans l'administration, il y a des choses qui sont intéressantes qu'on va faire en général au début, avant d'aller gérer nos utilisateurs et nos postes enregistrés par les utilisateurs. Par exemple, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Les administrateurs. On a deux types d'administrateurs, les administrateurs de service et les administrateurs clients. Donc administrateur de service, c'est les gestionnaires de l'abonnement, et administrateur client. Vous ne pouvez pas gérer de compte administrateur client. Il faut se connecter, pardon, au portail de compte Windows Intune pour aller gérer nos administrateurs. Donc ce qu'on voit ici, c'est que j'ai deux comptes. J'ai le compte d'origine et puis j'en ai un second qui a l'accès complet à la console, donc qui peut administrer mon Windows Intune. Téléchargement du Windows client, ça je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, c'est pour les postes de type Windows 7 en général et Windows Vista. Utilisation du stockage, donc ça me rappelle le stockage que j'utilise, sachant que j'ai un quota de 20 gigas et j'utilise quasiment rien, donc tout va bien. Gestion des appareils mobiles, donc là ça devient intéressant. Pour ce qui est des postes Windows, Windows Phone, iOS, il y a des choses particulières à faire pour permettre le déploiement d'applications en mode side-loading. Donc le side-loading, c'est quoi? Ça consiste à installer des applications modernes. Donc soit les applications modernes de Windows, soit les applications Windows Phone et les applications iOS. En mode side-loading, c'est-à-dire on a les binaires de l'application et on veut les installer sur les appareils. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement, évidemment pour des raisons de sécurité et de stabilité de ces OS. Donc, quelles sont les contraintes au niveau des appareils Windows? Les contraintes sont d'avoir une clé de side-loading. Donc, ce sont des choses qui évoluent, mais pour l'instant, on a encore l'obligation d'avoir une clé de side-loading. Donc, on va mettre un nom à la clé. Vous voyez, une mauvaise traduction encore de la clé qui a été traduite par coup de touche, mais en fait, il s'agit de la clé de side-loading, qui a un format ressemblant à une clé de produit Windows. 1, 2, 3, 4, 5 groupes de 5 chiffres à faire en copier-coller ici. Si je regarde plus bas, il y a une deuxième chose à rentrer, c'est un certificat de signature de code. Donc si vous voulez faire du side loading, il faut que les modules, les applications, pour ces applications-là, le package applicatif doit être signé par un certificat qui doit être reconnu par les postes. Donc si vous achetez un certificat de signature qui est reconnu auprès d'une autorité qui est reconnue naturellement par tous les postes Windows, pas de problème. Par contre, si vous utilisez un certificat de signature émis par votre PKI interne, il faudra déployer le certificat ou la racine de l'autorité de certification en question sur vos postes. Donc le plus simple, vous envoyez la racine ici, donc vous la rajoutez dans cette liste-là, et automatiquement le certificat va être déployé par par le client, le client par les, sur les postes lorsqu'ils vont s'authentifier et se connecter à Windows Intune. Donc vous voyez ici que j'ai déjà mis une clé de déploiement. Et précédemment, une clé de side loading, pardon, et précédemment, j'avais déjà mis un certificat de signature. Windows Phone, c'est pareil, avec un petit peu plus de contraintes, c'est-à-dire que il y a une contrainte supplémentaire sur le certificat qui doit être, pour l'instant, dans Windows Phone 8.1, qui doit être émis par une autorité connue, qui est Symantec, si je ne m'abuse. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le lieu dans ce cours d'introduction de rentrer dans les détails du side loading, mais sachez que. C'est quelque chose qu'il faut préparer. Pour iOS, le principe est le même avec un certificat de type APN, Apple Push Notification. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre et gratuit, si je ne m'abuse également, chez Apple. Donc il y a tout ce qu'il faut pour aller faire une demande de certificat APN chez Apple, récupérer le certificat, l'envoyer. Ici. Donc j'en ai mis un qui est valable jusqu'au mois de mai 2015 ici. Ensuite, configuration pour les clients Microsoft Exchange au cas où on utilise encore ES. Mais ce n'est pas notre objet ici. Et le dernier point de la configuration, c'est la configuration du portail d'entreprise. Donc ce fameux portail d'entreprise qui va permettre aux gens, aux utilisateurs finaux, de consulter la liste des applications, d'installer des applications, etc., etc. Et donc ce portail, on peut le personnaliser avec eh bien, le nom de la société, le nom du service informatique, le numéro de téléphone du support informatique, un mail, et puis des informations supplémentaires, une URL, etc. Et puis si je ne m'abuse, il y a également une couleur. Voilà, on a choisi la couleur bleue ici pour notre portail. On peut envoyer un logo de l'entreprise également. Si on en a un sous la main pour personnaliser le portail. Voilà. Pour les clients qui ne seraient pas des clients modernes, donc qui seraient par exemple en Windows 7, ils peuvent accéder au portail d'entreprise par le web, donc par HTTPS portal.manage.microsoft.com. Donc je vais vous montrer rapidement comment il se présente. Portal.manage.microsoft.com. C'est quelque chose qu'on fait rarement. En tout cas, quand on a des postes modernes. Si on a des postes Windows 7 et Windows Vista, ça peut avoir du sens d'utiliser ce portail sous forme web. Donc voilà comment ça se présente. Si vous avez déjà vu le portail sur Windows 8, ça y ressemble fortement, mais sous la forme d'une page web, donc c'est plutôt sympathique. Donc on y retrouve les applications par catégorie, etc., les applications proposées. Et par exemple, ici, j'ai simplement un pointeur. Un pointeur vers une page web. Et donc, quand je veux utiliser, ben, on me demande est-ce que je veux inscrire mon appareil, c'est-à-dire est-ce que je veux faire un enrôlement, est-ce que je veux enregistrer mon PC dans le Windows Intune de cette entreprise-là, ce que je n'ai pas fait sur ce poste-là, donc je ne vais pas le faire, puisqu'on le fera dans une autre vidéo avec un autre poste. Pareil, si je clique sur Ajouter un appareil, ça fera la même action, donc ça enregistrera cet appareil-là. Sur ce PC dans le Windows Intune. Donc je ne vais pas le faire. Je vais arrêter voilà, cette page. Donc voilà pour le tour d'horizon très rapide de Windows Intune et de son interface d'administration. On va terminer pour cette démonstration. Si ces sujets vous intéressent et que vous voulez interagir avec nous, ben, n'hésitez pas par Twitter à donc mon Twitter c'est Pessolière. Mes deux collègues, donc Stanislas et Arnaud, ont également leur Twitter, donc Esquastana et Arnaud Lheureux. Et puis le petit hashtag CourMVA, si vous voulez nous interpeller à propos de ces cours Microsoft Virtual Academy. Et je vous retrouve dans une autre vidéo peu après. Merci et à bientôt.